En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
À 7h37 sur RTL, Jean-Michel Apathy, Alain Duhamel, vous recevez Nicolas Sarkozy.
Bonjour Nicolas Sarkozy.
Bonjour Jean-Michel Apathy.
J'ai commis des erreurs, avez-vous dit, lors de votre entrée en campagne. Vous n'avez pas précisé lesquelles. Avez-vous trop avantagé les riches au début de votre quinquennat, Nicolas Sarkozy?
Non.
Ben voilà, c'est dit. Bouclier fiscal, allègement des droits de succession, c'est le reproche qui vous est fait depuis 5 ans.
D'abord, revenons, si vous voulez me poser la question, je réponds bien volontiers. Je suis candidat, il est normal, je réponds à toutes les questions. On m'a dit, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait des erreurs? J'ai dit, en 5 ans, oui, ça c'est sûr. Qui? D'ailleurs, j'imagine que vous-même, quand vous regardez les 5 dernières années, ça vous est même arrivé? Si, même par rapport à un invité d'aujourd'hui, de temps en temps. Oui, c'est tout à fait normal, c'est pas une preuve de faiblesse que de reconnaître ses erreurs.
Mais c'est un reproche qui m'est fait, Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas parce que c'est une réalité.
S'agissant de la suppression des droits de succession pour 90% des Français, c'était une promesse que j'avais faite au moment de ma campagne de 2007. C'est une promesse que j'ai tenue, parce que je considère, Jean-Michel Apathy, que quand, comme vous, on a travaillé toute sa vie, il n'est pas anormal, alors qu'on a payé des impôts, de laisser à ses enfants, en franchise d'impôts, le produit d'une vie de travail. C'est pas quelque chose qu'on a volé. C'est un engagement que j'ai pris, un engagement que j'ai tenu. S'agissant des grosses successions, des successions les plus importantes, nous avons augmenté la taxation dessus.
On vous fait un faux procès, alors?
En la matière, sur cela, certainement, je prends juste un exemple. Lorsque je suis devenu président, les stocks options étaient très peu taxés. La taxation des stocks options a rapporté 1 milliard d'euros depuis 2007. S'il y a des reproches à me faire, il y en a certainement à me faire, c'est pas celui-ci. Ça, c'est un procès en sorcellerie, procès habituel, qui permet de masquer l'absence de propositions.
Vous avez promis récemment d'interdire les retraits de chapeau et les golden parachutes. Vous l'aviez déjà promis le 19 mai 2007 et vous ne l'avez pas fait.
Je vais vous expliquer là-dessus. Oui. Certainement, c'est une erreur. Nous avons monté la fiscalité sur les retraites chapeau et sur l'ensemble de ces dispositifs à hauteur de 71%. Et je m'étais dit, en taxant à 71%, ils vont peut-être se calmer. Je parle d'ailleurs, il faut que les choses soient claires et précises entre nous. Je ne parle pas des retraites de chapeau pour les cadres. Les cadres moyens, ça peut exister dans un certain nombre de secteurs. Je parle des retraites de chapeau qui sont votées pour les principaux dirigeants, notamment les mandataires sociaux. Je me suis dit, à 71% de taxation, ils vont se calmer. Et je m'aperçois que non. Alors si vous voulez dire que c'est une erreur, je veux bien le prendre. Eh bien, puisqu'ils ne se calment pas, on va les interdire. Voilà. Parce qu'il y a une infime minorité, très petite, mais extrêmement choquante, qui n'a rien compris à la crise, qui ne comprend pas ses responsabilités et la nécessité d'avoir un minimum d'éthique. Mais j'ai été beaucoup plus loin, puisque j'ai proposé que désormais, il y ait un représentant des salariés dans le comité des rémunérations qui fixe les rémunérations, disons, des 10 plus hauts cadres de l'entreprise, que les rémunérations soient adoptées par l'Assemblée Générale des Actionnaires et que ça ne passe plus dans le secret, que ça soit publié dans les documents qui sont sortis chaque année avec les résultats.
Il y a quelque chose qui apparaît un peu contradictoire. D'un côté, vous vous élevez contre les outrances, les dérives, les abus, les privilèges de certains des patrons, en tout cas du CAC 40. Puis d'un autre côté, on a l'impression que ce sont vos partenaires, vos invités, vos hôtes, vos amis. Finalement, ce sont des partenaires, des adversaires, les deux.
Je ne comprends pas. Un président de la République, quand il y a une crise, doit-il discuter avec les banques pour s'assurer que l'économie a du crédit? Oui ou non? Dois-je le faire ou ne dois-je pas le faire, M. Duhamel?
La question qu'on se pose, c'est qu'à certains moments, on a l'impression que vous êtes très critique vis-à-vis d'eux et à d'autres moments, que vous êtes très proche d'eux.
Je ne vois pas.
Non.
Si vous voulez que vous me précisiez
les choses,
n'hésitez pas à le faire.
C'est moi
qui suis l'ami de M. Berger, propriétaire du Monde, financier, revendiqué de François Hollande. C'est moi qui suis l'ami du banquier chez Lazard, M. Pigas, richissime, mettant l'ensemble de ses moyens au service de Dominique Strauss-Kahn d'abord, puis de François Hollande.
Qui sont vos amis, mais c'est pas un reproche. La question, s'il y a une contradiction ou pas.
Non, il n'y a pas de contradiction. Voilà, quand on a 35 ans de carrière politique, on connaît un certain nombre de gens. Vous-même, vous les avez invités, tous ces gens-là. Je n'imagine pas que vous soyez, parce que vous avez invité quelqu'un, que vous soyez dépendant de lui. Alors, j'ajoute, on peut continuer les exemples. Est-ce moi qui travaille dans le groupe de Monsieur Bolloré?
Il y a une autre.
Non, je vous propose une question. Est-ce moi?
Non. Non,
bon.
Mais.
Non, mais ça...
C'est qui?
Oui, je ne sais pas pourquoi vous êtes dans le groupe de Monsieur Bolloré.
Ah bon, parce que personne n'a une émission de télévision dans le groupe de.
À la campagne de François.
Attendez, pardon, excusez-moi, c'est important, vous m'avez posé une question, j'y réponds. Est-ce que le fait de travailler dans le groupe de Monsieur Bolloré crée un sentiment de dépendance du candidat socialiste à l'endroit de M. Bolloré? Réponse non, je ne lui ferai pas ce procès. Donc j'aimerais qu'on ne me le fasse pas à moi, non plus. Voilà, est-ce que c'est clair?
Écoutez, on a posé une question, vous avez donné une réponse. C'est probablement plus clair maintenant qu'avant qu'on ait posé la question.
Voilà.
Une autre question. À Marseille, vous êtes élevé contre les freins aux réformes des corps intermédiaires, c'est-à-dire les syndicats, les élus locaux, consulaires, etc. Est-ce qu'ils ne sont pas tout simplement dans leur rôle quand ils contestent des réformes?
Oui, je ne le conteste pas. D'ailleurs, il faut faire la différence entre les uns et les autres. Si vous prenez le syndicalisme agricole, par exemple, j'ai rarement vu un milieu aussi attaché à la compétitivité, à la modernisation, que le syndicalisme agricole.
Et le syndicalisme fonctionnaire, par exemple?
Je ne dirais pas la même chose. Par exemple, prenons l'éducation nationale. Je ne reproche pas aux syndicats de défendre les gens qu'ils représentent, c'est leur rôle. Mais on ne peut pas dire que ça soit une force absolue tournée vers le changement en marche. Ce n'est faire procès à personne que de dire cela. Lorsqu'il a fallu faire la réforme des retraites, j'ai reçu à d'innombrables reprises la totalité des responsables confédéraux des centrales syndicales. Pas un seul, vous m'entendez, pas un seul n'était prêt à assumer la réforme des retraites. Fallait-il pour autant que je diffère la réforme parce qu'ils étaient contre? Pas un seul. Pour tous. Alors les plus ouverts me disaient, certes il faut une réforme, mais pas maintenant et pas celle-là. Ce qui est la caractéristique quand il y a un immobiliste, c'est jamais maintenant, c'est jamais le bon moment et c'est jamais celle-là. Pas un seul. Avec qui vouliez-vous que nous fassions, François Fillon et moi, la discussion? Pas un seul.
Votre phrase à Marseille, c'était à quel point les corps intermédiaires font écran entre le peuple et le gouvernement. Ces corps intermédiaires, syndicats, partis, groupes de pression, experts, commentateurs, disiez-vous, ne sont pas représentatifs, chacun à leur place. Une critique un peu excessive?
Je dis que quand il y a blocage, il faut en appeler au peuple. J'observe d'ailleurs que quand j'ai fait cette proposition,
le référendum,
avant même d'être candidat, ça a été un tollé d'une grande partie de la classe politique absolument générale. J'étais putschiste, dictateur, c'était pas ce qu'il fallait, j'allais chasser, que sais-je encore, oui, sur les terres de l'extrême droite, comme si d'ailleurs l'extrême droite avait des terres, il faudra m'expliquer où elles se trouvent, et pourquoi c'est ces terres, et pourquoi on condamne des gens à être prisonniers d'un discours extrémiste. Bref, aujourd'hui je vois que tous les jours, il y a quelqu'un, un candidat qui propose un référendum. Ça devait pas être si stupide que cela. Le référendum, c'est le général de Gaulle qui l'a introduit dans nos institutions. D'autres l'avaient fait à d'autres époques, mais c'est le général de Gaulle. Est-ce que vous croyez vraiment que les partis politiques, en 1962, auraient laissé le peuple français élire directement le président de la République s'il n'y avait pas eu le référendum? Est-ce que vous pensez qu'il y avait une chance que le peuple français ait eu le droit d'élire le président de la République s'il n'y avait pas le référendum? Une seule.
Donc le référendum est une arme que vous voulez utiliser,
c'est pas
Nicolas
une
Sarkozy,
arme.
Si vous êtes
le référendum,
un outil.
Est une méthode qui présente un autre avantage, Jean-Michel Apathy, si vous le permettez, qui consiste à dire à cette France qui souffre du fait de la crise, qui est désabusée, qui a tendance comme un cri de colère à dire non à beaucoup de choses, qu'il ne faut pas moquer, mais qu'il faut faire revenir dans les voies de la République positive, de lui dire qu'elle aura la parole, qu'elle n'est pas exclue du débat et qu'elle peut trancher un certain nombre de sujets au moment où il y a blocage manifeste.
Soumettrez-vous, si vous êtes réélu, Nicolas Sarkozy, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance en Europe au référendum?
Non.
Pour que les Français disent ce qu'ils en pensent?
Non.
Il y a des référendums pour certains sujets et pas pour d'autres.
D'abord, la première caractéristique, on peut parfaitement imaginer un référendum sur l'Europe. la monnaie unique, par exemple. Pourquoi ?
92.
Parce que la question est parfaitement claire. Voulez-vous échanger le franc contre l'euro ? C'est une question claire. S'agissant d'un traité avec 200 articles ou 250 articles, je ne vois pas la question claire qui est là-bas.
C'est un traité qui limite la souveraineté budgétaire.
Non,
donc c'est un traité qui doit être
C'est
considéré comme singulier, important.
Je ne suis pas de cet avis. C'est un traité, au contraire, qui nous rend notre souveraineté budgétaire. Je vais vous le démontrer, parce qu'il n'y a pas de souveraineté budgétaire pour un pays qui dépense plus d'argent qu'il n'en gagne, pour un pays qui dépend des marchés parce qu'il est endetté. Or, un traité qui inscrit la règle d'or, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que dorénavant, les gouvernements, quels qu'ils soient, gauche, droite, centre, ce que vous voulez, n'auront pas le droit, sur la durée d'une législature, de dépenser plus d'argent que nous n'en avons. C'est rendre de la souveraineté à la France. C'est rendre de la souveraineté à la France que de dire qu'on ne peut pas ruiner le pays.
Et pas de référendum là-dessus.
Non.
Alors, sur un sujet qui inquiète, enfin, qui inquiète et qui pose des problèmes quotidiennement aux Français, qui est celui du prix de l'essence, qui touche tout le monde, mais en plus, en particulier les plus modestes. Est-ce que vous avez des moyens quelconques, concrets, de limiter les dégâts ?
Oui. Pour limiter les dégâts, oui. Je voudrais d'abord dire que c'est se moquer des Français de dire qu'on va bloquer les prix. Bloquer les prix de quoi ? Du prix de pétrole qui est fixé par un marché mondial à l'extérieur ? C'est une plaisanterie.
C'est François Hollande qui l'a dit il y a quelques jours.
C'est une plaisanterie, dans le meilleur, si on veut être aimable. Vous imaginez bloquer les prix d'un pétrole qui est vendu par l'Arabie Saoudite, par un certain nombre de pays producteurs ? Vous allez leur dire, je bloque les prix en France ?
Alors, mais
vous
l'achetez. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Attendez. Vous l'achetez à l'étranger. C'est mentir de dire ça. Ça n'a aucun sens. Le blocage des prix. Le blocage des prix peut avoir du sens pour quelque chose qui est en France. Mais quelque chose que vous achetez à l'étranger. Donc on peut faire deux choses, me semble-t-il. La première, c'est encourager, soutenir et développer les voitures qui consomment moins de carburant. Parce que la première ressource énergétique dont nous avons besoin, elle s'appelle économie d'énergie. C'est ce que nous avons mis en place avec le bonus-malus. Nous avons désormais, la France, c'est un de nos atouts, le parc européen de voitures le plus propre et le moins consommateur d'Europe, grâce au bonus-malus. Vous savez, c'est l'État, quand vous achetez une voiture économe, l'État vous fait une réduction, et quand vous achetez une voiture qui consomme beaucoup, l'État vous le fait payer. C'est un premier élément. Deuxième élément, c'est développer l'énergie nucléaire. Quelle drôle d'idée quand même. Que de dire, le pétrole est cher, je vais bloquer les prix d'un pétrole que j'achète à l'étranger, donc je ne peux pas bloquer les prix, et je vais fermer 24 réacteurs nucléaires, alors que c'est une énergie qui coûte et qui permet aux Français d'avoir une électricité 30 à 40% moins chère que ce qui se passe chez nos voisins. Donc c'est les ressources alternatives.
Troisième élément, donc, c'est les taxes.
J'y viens. Oui, donc ça veut dire développer le nucléaire, développer les énergies renouvelables, photovoltaïques, hydrauliques, éoliens, et notamment l'éolien offshore. Et s'agissant de la baisse des taxes, je rappelle qu'en ce qui concerne, nous avons un déficit, que ce déficit doit être comblé. Mais si tel candidat veut baisser les taxes, qui demande à ses amis qui dirigent les régions et qui prélève une taxe sur le pétrole, eh bien d'alléger cette taxe et de la diminuer, il n'y a aucun problème.
Lié d'ailleurs en partie aux questions d'essence, il y a en ce moment beaucoup de d'échauffourées à l'île de la Réunion à cause du pouvoir d'achat, à cause du chômage, mais aussi beaucoup à cause des prix alimentaires et des prix justement de l'essence qui sont très élevés là-bas. Et vous avez des solutions pour eux ?
Bon, c'est un sujet extrêmement sérieux. L'île de la Réunion, c'est une île, comme son nom l'indique, au cœur de l'océan Indien, avec un peu moins d'un million d'habitants. Les prix sont plus chers qu'ailleurs parce qu'il faut tout faire venir. Hein. On est au sud-est de l'Afrique. On est juste derrière l'Afrique du Sud pour ceux qui ne sauraient pas où se trouve l'île de la Réunion. Les prix en moyenne sont 12% plus chers qu'en métropole parce que naturellement, il faut faire venir l'essentiel. Alors, dans ces affaires, fort heureusement, ces dernières nuits ont été plus calmes. Je veux rendre hommage au travail du préfet qui a bien travaillé et au travail des élus locaux, notamment le conseil régional et le conseil général. Il y a deux choses. Il y a d'abord un petit nombre de gens qui sont comportés comme des casseurs. La loi ne sera pas bafouée et la justice, comme la gendarmerie et la police, ont fait leur travail en prononçant des peines très sévères, qui ont contribué d'ailleurs à ramener le calme. Et puis, il y a un vrai problème, c'est qu'il y a un taux de chômage endémique extraordinaire. Écoutez, pour les moins de 25 ans, je crois qu'ils sont à près de 60% de taux de chômage. C'est une affaire extrêmement sérieuse et extrêmement difficile. J'aurai l'occasion d'aller à l'île de la Réunion au mois d'avril. Je ferai d'autres propositions, car je ne crois qu'à une seule chose, au développement économique de cette île, un développement économique endogène. Je prends deux exemples, vous allez parfaitement comprendre. Faire venir des matières, des denrées de la métropole, ça coûte cher parce que c'est loin. Il faut, comme nous avons commencé à le faire, développer l'élevage. Il n'est pas normal que la viande consommée là-bas ne soit pas une viande d'élevage. Il y a des pâturages, il y a de l'espace. L'agriculture doit être diversifiée également. Nous avons créé une zone franche globale d'activité. Je ferai au mois d'avril d'autres propositions pour développer cette île. Je crois à son développement, pourquoi ? Parce qu'elle se trouve dans un bassin de 80 millions de francophones. Parce qu'à côté, il y a Madagascar, il y a l'île Maurice. On peut créer une grande faculté de médecine pour l'ensemble des francophones de la région. On peut créer un marché francophone de la région. J'aurai l'occasion, au mois d'avril, de faire des propositions sur le sujet.
Le groupe ArcelorMittal, à Florange, en Moselle, refuse ou décale, du moins, le redémarrage de deux hauts fourneaux. 2500 emplois pourraient être concernés par ce que les syndicats évoquent comme une disparition programmée du site. Allez-vous faire quelque chose, Nicolas Sarkozy ?
Oui, c'est une affaire extrêmement sérieuse, et si vous me permettez, je vais prendre deux minutes pour y répondre. D'abord, c'est toute la question de la sidérurgie française. La France ne laissera pas tomber son industrie sidérurgique. Je veux qu'on comprenne les choses. Nous sommes dans une crise économique mondiale et européenne très forte. Il n'est pas anormal que dans une crise de cette nature, l'acier, qui est une matière première essentielle au développement économique, la demande d'acier baisse. Mais rappelez-vous, il y a 4 ans... dans les mêmes conditions, le prix de l'acier explosait parce qu'il y avait une croissance. On est donc là dans un problème conjoncturel et non pas dans un problème structurel. On peut dire que les problèmes de l'industrie textile, c'est du structurel. Les problèmes de l'industrie sidérurgique, c'est du conjoncturel. Et je ne laisserai pas faire pour la sidérurgie ce qui s'est passé pour la chimie avec la disparition de Pechiney. Nous agirons sur la sidérurgie comme j'avais eu l'occasion de le faire pour Alstom. Ça, c'est la première remarque.
Gandrange,
alors, sur Florange, c'est le haut fourneau qui est fermé. D'abord, sur Florange, il y a 500 personnes qui travaillent pour le haut fourneau. L'ensemble des autres activités, je parle notamment de la tôle, l'acier avec de la plus-value, ça fonctionne bien, c'est compétitif, et ils gagnent de l'argent. Sur Florange, nous avons travaillé avec le Premier ministre encore hier, et j'ai une réunion ce soir avec lui. Nous voulons quoi ? Premièrement, que le groupe ArcelorMittal fasse des investissements pour que ce haut fourneau puisse repartir. J'estime qu'il doit pouvoir repartir au deuxième semestre de cette année, compte tenu des prévisions économiques qui sont celles-ci. Deuxième remarque, nous sommes prêts à investir, y compris sur Florange, et un projet absolument fantastique qui pourrait faire de Florange un site très moderne sidérurgique, c'est le projet Ulcos, dont je parlerai en fin de semaine avec le président de la Commission européenne. L'État, dans le cadre du grand emprunt, des investissements d'avenir, est prêt à mettre 150 millions d'euros sur la table. Donc nous avons une discussion franche et directe avec la direction d'ArcelorMittal et avec M. Mittal.
Vous avez eu M. Mittal ? Vous lui avez dit qu'il faut investir à Florange ?
Ah, mais je ne l'ai pas eu une fois, je l'ai eu plusieurs fois. Et nous sommes prêts à prendre nos responsabilités. J'aurai l'occasion dans les prochains jours de faire des propositions très précises sur le sujet. Je vous demande de retenir ça. La France ne laissera pas tomber la sidérurgie.
Vous l'avez déjà dit à Gandrange, on ne laissera pas tomber, Gandrange a fermé.
Non, ce n'est pas vrai. Les engagements qui ont été pris à l'époque sur Gandrange ont été scrupuleusement respectés.
Le site a fermé
ce qui se passe à Florange, c'est autre chose. C'est une chute de la consommation d'acier qui est liée à la crise économique que nous connaissons. Et s'il faut que l'État investisse par le biais du FSI, nous serons prêts à le faire.
Dernière question d'Alain Duhamel.
Oui, vous avez dit à Marseille, en substance, si on aime la France, on refuse les 35 heures. On ne peut pas être patriote et aimer les 35 heures.
Mais bien sûr qu'on peut être patriote et aimer les 35 heures. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis si on aime la France forte.
Oui.
On peut aussi... Oui, c'est l'idée. Oui, merci de l'avoir compris. On peut aussi...
Ah, on essaye.
On peut
aimer.
Je m'attache au texte.
Pas toujours. Je vous connais, je vous écoute. On peut... La France forte, celle qui protégera les Français, c'est une France qui doit soutenir, aider le travail. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé que l'on baisse les cotisations salariales sur le travail pour 7 millions de Français. Cela fera une augmentation de près de 1 000 euros par an. On ne peut pas dévaloriser le travail. Il n'y a pas de solution pour la France dans la réduction du temps de travail, dans la pénalisation du travail, dans le manque de respect et de considération à l'endroit du travail.
Et qu'est-ce qu'il en restera puisqu'il y a la suppression du PPE en échange ?
C'est tout à fait simple. La PPE, c'est 2,5 milliards.
Oui.
La proposition que je mets sur la table, c'est 4 milliards.
Donc,
elle sera financée comment ? 2,5 milliards par redistribution de la PPE et 1,5 milliard par augmentation de la fiscalité sur les revenus financiers. Ça permettra de doubler l'équivalent de la PPE d'aujourd'hui qui est à 450 euros par an. Et deuxièmement, au lieu d'avoir 6 millions de bénéficiaires, il y aura 7 millions de bénéficiaires qui sont les salariés qui travaillent dur et qui, à la fin du mois, n'ont rien.
Voilà, merci Nicolas Sarkozy. Nous nous retrouvons dans 10 minutes avec Yves Calvi pour vous interroger sur l'éducation, l'immigration notamment.